Vous écoutez RTL.
Tout de suite, le second thème de notre curiosité du jour. On lève les yeux et on observe les étoiles. Bonjour Yael Nazé.
Bonjour, soyez la bienvenue.
Bienvenue, merci. Vous êtes astrophysicienne à l'université de Liège en Belgique. L'astronomie, elle est vieille comme l'humanité, est-ce qu'on peut dire ça?
Ah bah moi j'ai tendance à dire que oui, hein. C'est-à-dire que bon, on peut montrer que finalement c'est pas l'humour, hein. L'humour, on retrouve pas mal d'animaux qui ont de l'humour, c'est pas l'outil non plus, la technologie, on a aussi pas mal d'animaux qui essaient de développer un petit peu ce côté-là, mais par contre la science et l'art, deux activités inutiles par essence, et l'astronomie est la première des sciences, donc oui c'est les plus anciennes choses du monde. Moi je dis souvent, je fais le plus vieux métier du monde, et le pire c'est que je travaille dans le X.
Bravo. Avec des peuples experts en X, donc les Grecs, grands astronomes, pourquoi?
Alors pas seulement les Grecs, c'est un peu toujours le truc qu'on nous rabat. Quoi.
Oui, bon, on cite toujours les Grecs.
Voilà. C'est un cliché?
C'est un peu un cliché quand même, hein, oui. C'est fortement culturel, je vais dire. Mais non, on a plein de gens partout, et je dirais que culturellement, les plus anciens de notre côté, c'est quand même les Mésopotamiens. Les Grecs ont aussi beaucoup tiré de ce qui venait de Mésopotamie.
Les pyramides égyptiennes et mayas, les mégalithes de Stonehenge en Angleterre ou encore les aborigènes, toutes ces civilisations ont scruté le ciel et ont puisé leur mythe fondateur. On vous les raconte tout de suite sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
L'astronomie est née de la nécessité de mesurer le temps, de connaître la date, les saisons, savoir quand semer et quand se préparer pour l'hiver.
RTL.
Dans les temps anciens, tout le monde regardait le ciel et le connaissait. L'astronomie a commencé il y a 6000 ans avec les Babyloniens.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Au même moment, en Chine, les astronomes cartographient très soigneusement le cosmos. En Égypte, la crue annuelle du Nil est signalée par l'arrivée de l'étoile Sirius au lever du jour.
Bienvenue sur RTL, les curieux.
L'espace et ses centaines de milliards d'étoiles, on commence à peine à le connaître un tout petit peu aujourd'hui grâce aux télescopes et aux satellites. Mais de quand date l'astronomie? Depuis combien de millénaires les humains cherchent-ils à comprendre cet univers qui les entoure? On répond à ces questions grâce à notre invitée, l'astrophysicienne Yael Nazé. Question peut-être difficile, c'est quoi la plus ancienne trace d'astronomie?
Ça dépend à qui vous demandez. C'est-à-dire que, bon, voilà, des choses plus ou moins certaines, bon, disons, allez, 5000, à peu près, quoi. Entre 5000 et 6000 ans, on a des bâtiments orientés, des choses comme ça, où on peut se dire, oui, là, il y a quand même un lien avec l'astronomie assez fort. Mais on a des choses plus anciennes. Je veux dire, si vous prenez certaines peintures, par exemple, à Lascaux, ou d'autres sites préhistoriques en Asie ou ailleurs, où là, il y a des choses qui ressemblent vachement à des constellations. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Voilà, donc là, ça dépend un peu.
On est dans l'interprétation, un peu.
Voilà,
plus.
C'est beaucoup plus subjectif, et donc, bon, c'est plus difficile d'en être certain.
Alors, on va jouer, c'est presque un petit match qu'on va faire ensemble entre les civilisations pour essayer de voir celles qui ont à peu près compris le cosmos et les étoiles. Et on va commencer, si vous le voulez bien, par les sites qu'on connaît bien, qui nous sont plus proches géographiquement. La Bretagne, tiens, par exemple, le site de Dole. Il y a aussi le site de Gravigny ou alors Saint-Nectaire. Par exemple, Dole, on y trouve des menhirs. Est-ce qu'on sait pourquoi ils ont été construits? Pourquoi ils ont été placés là?
Les hommes du néolithique qui ont construit ça, c'est pas Astérix et toute sa bande, hein, soyons clairs, ce sont des hommes préhistoriques. Ils nous ont pas laissé d'écrit, donc on n'a pas, je vais dire, de liste. Voilà, ça servait à ça. Voilà le mode d'emploi. Quoi. mais par contre, ce qu'on sait, c'est quand on fait une étude, je veux dire, statistique sur l'ensemble, on regarde l'ensemble des menhirs de Bretagne, on regarde l'ensemble des allées couvertes, ou fait pareil en Écosse, en Angleterre ou quoi, on voit qu'il y a des orientations privilégiées, comme par exemple les directions du lever du soleil. En été, donc au maximum d'un côté, ou du lever du soleil au solstice d'hiver, de l'autre côté. Et puis, enfin voilà, ou les couchers, enfin des choses comme ça. Donc, on se dit, il y a des liens. Ils observaient, ils ont vu que le soleil se levait pas toujours au même endroit, qu'il se couchait pas toujours au même endroit. Et ça, manifestement, ça les travaillait, cette idée. C'est lié aux saisons, évidemment, et c'est pas seulement utilitaire. Bon, voilà, maintenant, dire à quoi servait un monument pour un truc, là, on ne sait pas.
Yael Nazé, avec vous, on va traverser la Manche maintenant. Nous voilà en Angleterre, à Stonehenge. Vous pouvez déjà nous décrire les lieux?
Alors, par le passé, quand ça a commencé, hein, donc en 3000 avant notre ère, bah, c'était un petit talus circulaire avec des petits trous, 56 petits trous. Et puis après, petit à petit, au milieu, on a commencé à construire des gros blocs. Alors c'est assez amusant. Parce
donc
que
des blocs de quoi? De pierre?
De pierre, qu'on a fait venir d'ailleurs de pas tout près. Et petit à petit, le monument est devenu de plus en plus complexe. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que la construction s'est allée sur 1500 ans. Alors imaginez-vous, quoi, hein, c'est plus qu'une cathédrale du Moyen-Âge qui serait toujours en construction.
Oui, c'est beaucoup de familles qui se relaient, c'est ça, pour un ouvrage collectif.
Exactement. Ouais. Voilà, donc beaucoup de générations, ouais. Sur une période pareille, vous avez aussi les gens qui changent, donc l'utilité du monument va aussi forcément évoluer.
Et quel lien avec l'astronomie alors, à Stonehenge ?
Alors quel lien avec l'astronomie ? Alors au niveau de Stonehenge, l'axe principal du monument est orienté vers le lever de soleil le 21 juin. C'est d'ailleurs le seul jour où le site est ouvert. Si vous habillez en panoramix, vous pouvez joyeusement vous balader dans les ruines pour observer le soleil se lever. Oui. Mais bon voilà, donc ça on sait que l'axe principal du monument est dedans.
Et le 21 juin, pourquoi ?
Alors, le 21 juin, c'est une date assez importante. Hein, le solstice, c'est le jour où le soleil va être au plus haut, le jour le plus long de l'année. Mmh. Donc, c'est vraiment le soleil dans toute sa puissance. C'est aussi le maximum, parce qu'après, il va diminuer. Donc là, on a plus une idée de puissance. Et quand c'est orienté plutôt vers le solstice d'hiver, on a plus une idée de renaissance, parce que le soleil n'ira pas plus bas. Ça ne peut que s'améliorer. Donc, voilà les deux idées principales.
Astronomie du passé, c'est le titre de votre livre qui est publié chez Belin. Toutes les civilisations, vous nous l'avez dit, ont observé les étoiles. Par exemple, les aborigènes en Australie, ils avaient tout compris des éclipses bien avant les autres, vous verrez.
RTL Matin, Yves Calvi.
Chaque matin, François Langlais est à nos côtés pour vous faire comprendre l'économie.
L'Angleco.
Le PIB, ça n'est jamais qu'une photographie d'un an d'économie française.
Rendre l'économie concrète et accessible, c'est le défi quotidien de François Langlais.
Dès que l'emploi ou le pouvoir d'achat augmente, bah notre demande à l'étranger progresse.
Merci François, on vous retrouve chaque matin à 7h40 sur RTL.
Aujourd'hui, les chercheurs s'appuient sur des technologies révolutionnaires dans l'espoir de découvrir les secrets de Stonehenge.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
Situé dans le sud de l'Angleterre, ces mystérieux mégalithes ont plus de 4500 ans. Malgré des siècles de recherches intenses, cette structure antique demeure une énigme.
RTL.
Pourquoi a-t-elle été construite ? Quelles forces ont inspiré ses créateurs ?
Si votre défaut, c'est la curiosité, alors vous êtes bien sur RTL.
On observe les étoiles dans la curiosité, comme toutes les civilisations avant nous. Et notre guide est astrophysicienne, professeure à l'université de Liège. On était en Angleterre il y a quelques secondes, à Stonehenge. Et là, les dernières découvertes nous emmènent en Australie, chez les aborigènes. Que vient-on d'apprendre sur ce peuple, Yael ?
Pas mal de choses, ça a beaucoup bougé ces dernières années. On avait un peu délaissé, hein, il faut bien dire, l'Australie. Et puis là, on est en train de se rendre compte qu'il y a plein de choses intéressantes. On a découvert des monuments orientés, des mini-Stonehenge, si vous voulez, version aborigène.
Donc des pierres qui étaient dirigées vers le soleil, par exemple.
Des pierres dirigées vers les deux extrêmes du soleil. En fait, il y a notamment un monument en forme d'œuf et les deux sont dirigés, enfin les deux côtés sont dirigés vers le soleil. Et puis vous avez aussi des monuments liés à la Voie lactée, par exemple.
Et puis ça veut dire quoi, un monument liés à la Voie lactée?
Alors, ils font des initiations des jeunes, mm-hmm, à certains moments de l'année, au mois d'août. Et la Voie lactée, à ce moment-là, est un peu verticale. Elle se lève à un certain endroit, évidemment, de l'horizon. Et ils ont orienté leur site d'initiation, leur dessin, vers cet endroit de levée de la Voie lactée. Et le dessin du site d'initiation ressemble d'ailleurs à la Voie lactée. Donc, il y a vraiment un lien entre les deux. Alors, il y a d'autres choses. Hein. On a aussi pas mal cherché dans leurs histoires. Ils ont été durs à convaincre, hein, mais finalement, ils ont réussi.
Et là, pourquoi vous dites durs à convaincre? Parce que c'est un peuple de tradition orale, donc c'était des histoires qui se transmettent de génération en génération. Il n'y a pas que ça.
C'est-à-dire que, bon, il faut bien se rendre compte aussi qu'il y a eu un mépris assez général pour les aborigènes. Et donc, ils se sont beaucoup renfermés sur eux-mêmes et ils ont gardé, je veux dire, leurs connaissances transmises justement oralement. Et donc, il y a eu un certain besoin de discuter avec eux pour leur expliquer que quelque part c'était pas pour les dénigrer, pour les embêter, c'est justement pour essayer de mieux les comprendre et de les mettre en valeur.
C'est un peuple tourné vers les étoiles, on peut dire ça depuis toujours.
Mais
les
tous les peuples ont été tournés vers les étoiles, c'est juste nous qui l'oublions. Hein. Entre les lampadaires et la télé, ben on regarde plus le ciel, quoi.
On a nos étoiles à nous, quoi.
Le cri du cœur de l'astrophysicienne. Mais regardez le ciel, bon sang.
Mais d'ailleurs, c'est une petite curiosité, je fais un tout petit pas de côté. Vous dites qu'on peut voir la Voie lactée parfois certains soirs?
Oui, enfin, pas depuis Paris. Hein.
Non. Il y a trop de lumière dans Paris, c'est
voilà,
ça.
Voilà, c'est ça. Mais si vous allez en campagne, vous risquez de la voir. Maintenant.
Ça ressemble à quoi? Un nuage lacté, justement
Ben, c'est tout un amoncellement d'étoiles, une faible lueur, comme ça, qui traverse le ciel. Maintenant, c'est vrai que de l'hémisphère nord, c'est moins impressionnant que de l'hémisphère sud. L'hémisphère sud, elle est magnifique. Vous avez le sang de la Voie lactée. Enfin, vous êtes mort quand vous la voyez. Elle est magnifique.
Je disais tout à l'heure que les aborigènes avaient peut-être un temps d'avance sur la compréhension des éclipses. Pourquoi peut-on dire ça, Yael Nadé?
Alors en fait, c'est parce que ce qui est assez amusant, c'est que un peu partout dans le monde, y compris dans des civilisations fort avancées au niveau modèle et tout ça, comme en Inde, les éclipses sont toujours une question de malheur, quoi. Oh mon Dieu, la lumière du soleil disparaît en pleine journée, est-ce qu'il va revenir, machin.
Donc c'est un drame sacrifiant quelques enfants et quelques animaux.
Quoi. Exactement, c'est ça l'idée. faisons un peu de bruit aussi, ça marche bien. ils vont vous faire toutes des histoires compliquées. Alors en Inde, ils vont vous dire, oui, ça se passe à tel endroit du ciel parce qu'il y a un démon à tel endroit, enfin bon, passons. Mais alors en Australie, il y a certaines tribus pour lesquelles c'est un événement positif parce que le soleil et la lune sont hommes et femmes. Et on va espérer qu'il n'y a pas trop d'enfants qui nous écoutent, mais l'idée c'est que le mari et la femme se retrouvent dans leur chambre et qu'on referme la porte et donc on ne voit plus leur lumière et c'est pour ça qu'il y a une éclipse, mais c'est donc pas du tout un événement malheureux. Et ils ont remarqué que c'est le soleil et la lune. Les éclipses se produisent quand le soleil et la lune sont ensemble. Or, des civilisations comme l'Inde ne le notent pas, je vais dire. C'est vraiment un monstre qui mange le soleil puis la lune. Mais le soleil et la lune, le fait qu'ils soient ensemble n'intervient pas. Alors que c'est l'élément principal de l'éclipse.
Donc il y a cette compréhension de départ.
Voilà, exactement. Donc c'est assez amusant de voir que finalement, on a des civilisations qui ne vont peut-être pas faire de la modélisation très compliquée. Mais qui vont arriver à des idées très intéressantes.
Est-ce qu'ils se servaient au quotidien de leur connaissance des étoiles, les aborigènes? Peut-être pour les cultures, pour prévoir la météo, j'en sais rien.
Oui, tout à fait. Donc ils vont prévoir leur tour des saisons. Alors maintenant, les aborigènes qui sont au bord de mer vont s'en servir pour savoir quand vont revenir certains poissons qui se baladent, qui migrent dans les océans. Ceux du sang, du désert ou quoi, vont plutôt s'intéresser à la saison où certains buissons font des petits fruits qui
la
peuvent
floraison
aller manger,
des plantes
enfin, ce genre de choses. Ouais. Donc ça dépend un peu, mais c'est effectivement pour des raisons de calendrier, des raisons d'orientation aussi, se retrouver dans l'espace. Et ça, c'est un peu la raison, un peu partout dans le monde, c'est ce qu'on retrouve.
Et maintenant, un match dans la curiosité entre deux peuples bâtisseurs de pyramides, les Égyptiens contre les Mayas. Qui étaient les meilleurs pour observer les étoiles? Réponse dans un instant sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
De toutes les civilisations anciennes de l'Amérique du Sud, aucune ne s'intéresse à autant à l'astronomie et à la notion de temps que les Mayas.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
De leurs observations de divers corps célestes, les Mayas déduisirent le concept d'un cycle universel de répétition des événements.
RTL.
Les anciens Mayas nous ont laissé certaines constructions attestant que leur connaissance en astronomie était très avancée.
Si votre défaut, c'est la curiosité, alors vous êtes bien sur RTL.
Le ciel nous intrigue, il nous pousse à chercher une explication sur la marche du monde. C'est vrai, dans toutes les civilisations, voilà ce que nous raconte, ce que nous explique notre invitée, l'astrophysicienne Yael Nadé. Et donc, match avant la Coupe du Monde entre les Égyptiens et les Mayas. Et bon, on va dévoiler le score, c'est facile 3-4-0 pour les Mayas, mais on va quand même dire un mot des Égyptiens, qui n'étaient pas très très doués en astronomie, mais ils nous ont légué 2-3 choses. Quoi par exemple, Yael Nadé?
Oh, ils nous ont légué l'année de 365 jours, les 24 heures, ce genre de choses.
Pas mal quand même.
Ouais,
ils étaient pratiques.
Ils ont fait 2-3 trucs pratiques, mais ils n'étaient pas doués, quoi. C'est tout. Ils ont fait des trucs super en architecture, ils ont fait des trucs super en médecine, mais en astro, ils sont nuls.
Alors, les Mayas, pourquoi ils étaient meilleurs? Ils sont meilleurs, selon vous, Yael Nadé? Qu'est-ce qu'ils ont inventé? Qu'est-ce qu'ils ont changé dans notre vision des étoiles?
Alors, à notre vision, à nous, Européens, pas grand-chose, puisqu'on est quand même assez loin, soyons clairs.
Qu'est-ce qu'ils avaient compris, alors?
Ce qui est intéressant à voir chez eux, c'est que donc dans les codex, qui sont les quelques livres qu'on n'a pas brûlés, nous, quand on a été par là, on voit qu'il y a énormément d'astronomie, énormément de modèles, et des modèles extrêmement précis. Or, il y a très peu de civilisations qui ont fait des modèles astronomiques
précis. C'est quoi des modèles? Ça veut dire quoi, un modèle astronomique?
Alors, un modèle, vous pouvez faire un modèle géométrique, vous prenez une planète et des étoiles et vous les faites tourner, quoi. Et vous
regardez, c'est une carte du ciel en fait.
Alors pas nécessairement une carte ou en tout cas savoir quand un événement va se produire. Donc ça peut être, je veux dire, la base, ça peut être un simple calcul, ça peut être un petit dessin, mais bon, au final, l'idée, c'est que vous savez quand se produisent les éclipses, quand, par exemple, Vénus va revenir, ou ce genre de choses.
C'est une vraiment... compréhension du ciel et du fonctionnement
voilà,
du ciel et des étoiles.
Voilà, essayer de retrouver d'accord. des cycles. Les Mayas étaient absolument absorbés par leurs cycles. Et donc, eux vont essayer de raisonner comme ça en termes de cycles, de savoir quand les choses vont revenir et de faire fonctionner les trucs. Alors qu'ils n'ont pas de décimales, ils vont arriver à des précisions phénoménales sur ces cycles astronomiques. Quoi.
En fait, l'objectif, c'est toujours de se situer dans le temps, ou en tout cas l'un des objectifs, parce qu'il y a les légendes qu'on crée autour des étoiles, de la Lune, du Soleil, mais il y a aussi le fait de se situer dans le temps. Dans votre livre, je vais juste citer ouais. Astronomie du passé qui est chez Belin, vous parlez d'un site maya qui est au Guatemala, mm-hmm. avec trois petits temples qui ont une forme d'utilité. À quoi servent-ils ces temples?
Ah oui, alors là, c'est ce qu'on appelle les groupes E. Donc il y a un temple central et puis trois petits temples sur le côté. Ouais. Et là, c'était plutôt un truc politique. Hein.
Ah, oui.
On retrouve ça au Oaxaca, mais il y en a plusieurs en fait autour. Et alors l'idée, c'est que vous mettez en gros l'empereur sur la grande pyramide, vous mettez la populace en bas, et puis l'empereur fait lever le soleil derrière un des trois temples. Là où il l'a désigné. Ouais. Quoi. Donc le soleil lui obéit. Donc si le soleil, qui est un dieu, lui obéit, c'est qu'il a reçu un mandat divin pour diriger la cité. Donc là, votre idée, c'est vous impressionner le peuple pour qui... Pas qu'il vote pour lui parce qu'il n'a pas le droit de vote, mais en tout cas qu'il ne vous tue pas et qu'il ne fasse pas une révolution.
C'est pas aussi un moyen de se situer dans l'année, rapidement?
Alors, c'est l'idée, c'est que évidemment ça marche très bien quand vous connaissez l'année, c'est oui. pas compliqué à déterminer. Mais là, l'idée est vraiment plus une idée pour impressionner les gens. Mmh. On va plus retrouver l'idée de ce genre de choses avec des piliers qui se trouvent pas loin, plutôt chez les Incas en fait, où là c'est vraiment un truc utilitaire.
Merci beaucoup, merci Yael Nazé. Donc votre livre Astronomie du passé, qui est vraiment passionnant, est publié aux éditions Belin, on vous le conseille.
Vous écoutez RTL.